ce que la Bible peut nous dire aujourd'hui sur notre responsabilité à l'égard des plus pauvres, et pour parler de ce que le sel soutient dans différents pays en développement. Et donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Je vais avoir une intervention qui sera en deux temps. Dans un premier temps, nous ouvrirons ensemble la parole de Dieu. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai le travail qui est accompli par nos partenaires sur place pour le parrainage des enfants. Et donc je vous propose d'abord d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 20. Proverbes chapitre 20, je lirai un seul verset qui sera notre fil conducteur pour cette prédication. Et puis j'aurai l'occasion de citer d'autres textes de la parole de Dieu au cours de ce message. Proverbes chapitre 20, je lirai le verset 6. Proverbes chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? C'est donc dans le livre des Proverbes que j'ai choisi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui a été écrit pour nous apprendre à vivre avec sagesse. Un livre qui est là pour nous aider à vivre avec sagesse dans notre vie de tous les jours. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui parle de situations banales, ordinaires, quotidiennes. C'est un livre qui nous dit comment ceux qui connaissent Dieu se conduisent dans les situations banales, ordinaires, quotidiennes, celles que nous rencontrons peut-être non pas le dimanche matin au culte, mais le lundi, quand nous sommes retournés au travail ou à l'école. Il nous dit aussi comment ceux qui ne connaissent pas Dieu se conduisent dans les mêmes situations. Le verset que nous avons lu est un verset très simple, très facile à comprendre. Il a été écrit il y a bien longtemps, et pourtant, il est tellement actuel aujourd'hui. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Est-ce que ce n'est pas particulièrement vrai aujourd'hui, dans une société où tout est médiatisé ? Même la bienveillance, même la générosité. Et je voudrais aborder rapidement trois points avec vous ce matin. D'abord, voir quelle est la différence entre proclamer sa bienveillance d'une part et être fidèle d'autre part. Ensuite, examiner en quoi ce verset est particulièrement pertinent lorsque l'on réfléchit à la situation de ceux qui se trouvent dans la pauvreté. Et puis enfin, approfondir un peu le thème de la fidélité et voir que cela peut de nouveau nous conduire dans une action en faveur des plus pauvres. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Quelle est la différence entre proclamer sa bienveillance d'une part et être fidèle d'autre part ? Incontestablement, il s'agit d'une différence entre l'apparence et la réalité. Il y a davantage de personnes qui ont l'air d'être bienveillantes, qui ont l'air d'être fidèles, que de personnes qui le sont réellement. Et cela pour une raison très simple, c'est que la majorité des gens soignent un minimum leur façade. Il y a très peu de gens qui se moquent totalement de savoir comment les autres les regardent. Très peu de gens qui se moquent totalement de savoir si on les regarde comme des gens bien, ou comme des gens peu fiables. Ça existe, il y a vraiment des gens qui semblent se moquer totalement du regard que les autres portent sur eux, mais c'est quand même assez rare. Il y a loin de là à être vraiment fidèle. Mais il y a une nuance supplémentaire dans notre texte. Plus que le contraste entre l'apparence et la réalité, c'est, je dirais, le contraste entre ce qui est solide et ce qui est inconsistant, qui est en cause. D'un côté, nous avons de simples paroles, des paroles qui n'aident pas beaucoup, en particulier quand on se trouve dans la détresse. Et de l'autre, nous avons la solidité de celui qui est là quand il faut, qui reste présent quand tout le reste s'est écroulé. Et quand tous les autres sont partis La différence, c'est entre ce qui s'écroule lorsqu'on s'appuie dessus et ce qui tient bon, même dans la tempête. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Cette question, elle sonne comme un avertissement et comme un défi. Ne te laisse pas impressionner par tout ce qu'on dit. L'expérience prouve qu'il n'y a pas tant de gens fidèles que ça. Et si la question avait même quelque chose d'un peu angoissant? Je suis entouré de personnes qui ont pour valeur la solidarité, la bienveillance, l'entraide, l'amour fraternel. Nous sommes dans une église, n'est-ce pas? Qu'arrivera-t-il le jour où j'aurai vraiment besoin d'aide? Qui me sera fidèle ce jour-là? Je voudrais redoubler la difficulté de la question en la posant dans les termes suivants. Qu'arrivera-t-il le jour où je commettrai un péché grave et où tout le monde le saura? Qui me restera fidèle ce jour-là? Et qui fera partie de ceux qui me montreront du doigt en disant « Tiens, 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 voilà celui qui se promenait dans les églises pour prêcher. » Et il fait ça? Un homme fidèle, qui le trouvera? Et bien sûr, la question peut m'être retournée. Est-ce que moi-même, je suis quelqu'un de fidèle? Est-ce que ceux que Dieu met sur mon chemin peuvent compter sur moi? Vous voyez, c'est un proverbe très bref, très simple, très facile à comprendre, et pourtant très actuel, qui pose beaucoup de questions et qui peut nous amener à nous remettre en question. Deuxième point, je dirais que ce proverbe est un proverbe particulièrement pertinent par rapport à ceux qui vivent dans la pauvreté. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, je voudrais donner quelques points de repère sur ce que la Bible nous dit par rapport à la pauvreté. Et quand on aura ces points de repère, je vais en donner trois, quand on aura ces trois points de repère en tête, je crois qu'on verra que ce proverbe s'applique particulièrement bien à ceux qui se trouvent dans la pauvreté. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la pauvreté? Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais en donner trois. Premièrement, la pauvreté se caractérise par le fait de souffrir de carence, de manque dans les besoins de base et d'être vulnérable à l'injustice. Quand la Bible parle de la pauvreté, il y a souvent deux mots qui reviennent, nourriture et vêtements. Le pauvre, c'est celui qui souffre de carence dans le domaine de la nourriture et du vêtement, les besoins de base. Et bien sûr, nourriture et vêtements, c'est une formule toute faite qui résume les besoins de base. Dans la nourriture, il faut entendre aussi la boisson. Dans le vêtement, il faut entendre aussi le logement. C'est un prolongement du vêtement, le logement. C'est ce qui permet de protéger l'intégrité physique de la personne, de ne pas être dehors et d'avoir froid, de ne pas être dehors et d'être exposé à toutes sortes d'aléas et des intempéries, etc. Si vous voulez avoir ne serait-ce qu'un exemple de ce que je dis, je vous invite à relire chez vous le chapitre 58 du livre du prophète Ésaïe. Quand Dieu appelle son peuple à agir en faveur des pauvres, il lui parle de choses comme « partage ton pain avec celui qui a faim, couvre d'un vêtement celui qui est nu ». Mais aussi, dénoue les liens du joug, parce que le pauvre est vulnérable à diverses sortes d'injustices. Donc, premier point de repère, la pauvreté consiste à souffrir de carences dans les besoins de base et à être vulnérable à diverses sortes d'injustices. Deuxième point de repère, je dirais que les pauvres se trouvent dans la situation de ne pas pouvoir rentrer dans le rapport de donnant-donnant, qui caractérise énormément de nos relations sociales, et beaucoup plus qu'on est prêt à l'admettre spontanément, je crois. Jésus dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux, et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer. Car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Je ne dirai jamais que les pauvres n'ont rien à nous apporter. Mais ils ne peuvent pas nous offrir quelque chose qui soit considéré comme socialement équivalent. Si vous les invitez à manger chez vous, ils ne pourront pas vous inviter à manger chez eux. Si vous leur donnez de l'argent, ils ne pourront pas vous donner de l'argent en retour. Le pauvre ne peut pas rentrer dans les rapports de donnant-donnant qui caractérisent bien des relations sociales. Donc, premier point de repère, le pauvre souffre de carence dans les besoins de base et est vulnérable à diverses sortes d'injustices. Deuxième point de repère, il ne peut pas rentrer dans les relations de donnant-donnant qui caractérisent un bon nombre de relations sociales. Troisième chose, la Bible désigne souvent l'ensemble des pauvres par l'expression toute faite, la veuve et l'orphelin. Et dans certains passages, la veuve, l'orphelin et l'immigrant. Trois catégories de personnes fragilisées. Trois catégories de personnes aussi pour lesquelles des relations clés ont été abîmées ou brisées. La veuve a perdu son mari. Sur le plan humain, c'est sans doute la relation la plus proche qui puisse exister, la relation entre un homme et son épouse. L'orphelin a perdu son père. Sur le plan humain, c'est sans doute la deuxième relation la plus proche qui puisse exister, la relation parent-enfant. L'immigrant, c'est celui qui est isolé par rapport à la communauté dont il est originaire. La rupture des relations peut conduire à la pauvreté, tout comme la pauvreté renforce l'isolement. Quand on a ces trois remarques en tête, la pauvreté se caractérise par le fait de souffrir de carences dans les besoins de base et d'être vulnérable à l'injustice. Les pauvres ne peuvent pas rentrer dans les rapports de donnant-donnant qui caractérisent beaucoup de relations sociales. Et les pauvres souffrent de relations brisées ou abîmées. Je crois qu'on est en mesure de comprendre en quoi notre proverbe est particulièrement pertinent pour ceux qui vivent dans la pauvreté. C'est très simple. Les pauvres n'ont pas besoin de rencontrer des gens qui proclament leur bienveillance. Ils ont besoin de rencontrer quelqu'un de vraiment fidèle. Mais je ferai un pas de plus. Les pauvres se caractérisent bien souvent comme étant des personnes qui cherchent un homme fidèle sans trouver. C'est souvent ça la situation de ceux qui vivent dans la pauvreté. Chercher quelqu'un de fidèle est impossible à trouver. Ce n'est pas simplement l'expérience qui le dit. La Bible le dit aussi. Et la Bible le dit avec des paroles qui ont un réalisme qui a de quoi nous secouer. Je me contente de citer un seul verset, toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 7. « Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui ? Il recherche des entretiens, mais il n'y en a pas. » Un homme fidèle, qui le trouvera ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette question est angoissante ? Quand on n'a pas de quoi manger, qu'on est à la merci de personnes injustes, qu'on est isolé et qu'on n'a rien à offrir en échange de l'aide qu'on réclame. Parce que c'est bien de ça dont il est question dans le dernier verset que nous avons lu. Pourquoi les amis du pauvre s'éloignent-ils de lui ? Parce que l'amitié avec le pauvre, ça ne rapporte pas. Au contraire, on peut toujours se dire, si je donne aujourd'hui, il va revenir demain pour me demander encore. Un homme fidèle, qui le trouvera ? Alors, quelle est la réponse à cette question ? Est-ce qu'il faut répondre « personne » ? Est-ce qu'il faut dire « un homme fidèle, ça n'existe pas » ? Est-ce que la sagesse que la Bible veut nous inculquer, c'est une sagesse faite de pessimisme, de méfiance, de cynisme ? Je ne crois pas. Si le livre des Proverbes nous dit « un homme fidèle, qui le trouvera ?», ce n'est pas pour nous inciter à répondre « personne », c'est pour nous faire réaliser à quel point un homme fidèle, c'est rare et c'est précieux. Si vous avez trouvé un homme ou une femme fidèle, vous avez de quoi vous réjouir, parce que ce n'est pas si facile que ça. À l'inverse, si vous-même vous êtes devenu un homme ou une femme fidèle, alors votre vie est précieuse, elle en vaut vraiment la peine. Tout au long de l'histoire, il y a eu des hommes et des femmes fidèles. Quelques-uns ont été connus, quelques-uns ont leur histoire qui est racontée dans la Bible ou dans les livres d'histoire de l'Église. D'autres, sans doute les plus nombreux, n'ont été remarqués que par Dieu. Par Dieu et par ceux qui ont eu le bonheur de se trouver sur leur chemin. Et ça suffit pour que leur vie soit belle et en vaille vraiment la peine. J'estime que l'un de mes plus grands privilèges dans le cadre de mon travail au SEL Auxel, nous soutenons des organisations chrétiennes locales. Nous n'envoyons pas du personnel sur place pour mettre en œuvre des projets ou des programmes de parrainage. Nous soutenons des œuvres chrétiennes locales. Et j'estime que l'un de mes plus grands privilèges dans le cadre de mon travail Auxel, ça a été de rencontrer des hommes et des femmes fidèles parmi nos partenaires. Pas des personnes qui me font me sentir coupable parce qu'ils en font tellement plus que moi par rapport aux pauvres, mais plutôt des personnes qui me tirent vers le haut et qui me montrent qu'une vie vécue dans l'amour est une vie précieuse et qui en vaut vraiment la peine. Une vie vécue sous le regard de Dieu et au service du prochain. Troisième et dernier point. Si on creuse le thème de la fidélité, on aboutit, je crois, là où on aboutit toujours, lorsqu'on approfondit un thème biblique, quel qu'il soit. Et si on n'y aboutit pas, c'est qu'on n'a pas encore creusé assez profond. On aboutit à la personne et à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse donne à Jésus le nom « fidèle et véritable ». L'homme fidèle que nous cherchons, un homme fidèle qui le trouvera, au fond, c'est lui. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous trouvons à l'avance une description de celui qui devait venir, le serviteur de l'Éternel, qui est faite dans les termes suivants. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Est-ce que j'ai le droit de paraphraser ce texte en disant « Il ne proclamera pas sa bienveillance ». En tout cas, Jésus a cité ce texte pour expliquer que lorsqu'il accordait des guérisons miraculeuses ou des délivrances miraculeuses, il disait souvent « Ne le dis à personne ». Et le texte continue. « Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il révélera le droit selon la vérité ». Quelle extraordinaire description d'une fidélité à toute épreuve, même pour celui qui est tellement faible qu'il est décrit comme une mèche qui fume encore, pas une bougie qui brûle, juste un peu de fumée qui reste. Et Jésus n'est pas venu pour éteindre. Jésus est la sagesse de Dieu. Cette sagesse, elle atteint ceux qu'on ne pensait pas, les pécheurs, les pauvres, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les enfants, les lépreux, les démoniaques, ceux qui ont cherché un homme fidèle et qui n'avaient pas trouvé. Un homme fidèle, qui le trouvera? Et si au fond le problème était là? Si au fond il était si difficile de trouver un homme fidèle, parce que c'est si difficile de trouver quelqu'un qui croit en un Dieu fidèle, qui regarde au Sauveur fidèle, qui se souvienne de celui qui s'appelle fidèle et véritable. J'ai dit au début de ma prédication que la différence était la différence entre l'inconsistant et le solide, entre le fragile et le solide. Mais nous ne sommes pas solides. Nous sommes fragiles et nous ne devenons solides que le jour où nous apprenons à appuyer notre fragilité sur la solidité de Dieu. Nous ne devenons solides que le jour où nous apprenons à appuyer notre fragilité sur la solidité de Dieu, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas vraiment nous qui sommes solides. C'est le fait que, comme nous nous appuyons sur Dieu, en un sens, nous participons à sa solidité, à lui. Mais tant que nous ne pouvons pas compter sur un sauveur fidèle, nous sommes fragiles. Nous avons besoin de nous défendre nous-mêmes, de nous protéger. Et il y a beaucoup plus de probabilités que nous fassions partie de ceux qui proclament leur bienveillance que de ceux qui sont vraiment fidèles. Et je crois que l'une des premières responsabilités de l'Église, c'est d'être un lieu où on se souvient de la fidélité de Dieu. C'est le sens de la Sainte Cène. Faites ceci en mémoire de moi. Un lieu où on raconte la fidélité de Dieu, où on la célèbre, où on prie pour que Dieu manifeste encore sa fidélité pour les hommes aujourd'hui. Un lieu d'où chacun va pouvoir sortir avec une parole de bénédiction. Aller en paix pour aimer et servir le Seigneur. L'Église est le lieu à partir duquel l'amour des chrétiens peut déborder dans le monde, le foyer à partir duquel nous pouvons rayonner. Devenir un homme ou une femme fidèle, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend du temps. Ça s'apprend notamment en découvrant de nouveau la grâce de Dieu à chaque fois que nous nous montrons infidèles. Et petit à petit, on devient fidèle quand on expérimente la fidélité de Dieu quand nous sommes infidèles. Ça s'exprime dans les différents domaines de notre vie, mais dans un monde en détresse comme celui dans lequel nous vivons, devenir un homme ou une femme fidèle, ça impliquera forcément à un moment ou à un autre de faire quelque chose pour les pauvres. Forcément, à un moment ou à un autre, notre chemin croisera celui de personnes qui vivent dans la pauvreté et nous serons alors appelés de nouveau à être fidèles à l'image de notre Seigneur Jésus qui a été fidèle envers nous, qui sommes si désespérément pauvres sans sa grâce. Amen.